السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنبدأ في هذه الدورة بشرح ما توقفنا عنده من كتاب الأدب في الدورة الماضية، كتاب الأدب من كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند كتاب آداب النوم، كتاب آداب النوم. يقول الحافظ النووي: قال: باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا، هذه كلها آداب في كتاب النوم، في كتاب الأدب أدب النوم. وعلى طريقة الحافظ النووي أنه يورد الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على علمه، وقد يكون بعض منها وهي قليل ضعيف الإسناد، ولكن في الغالب يكون صحيح المعنى، تعضده بعض أحاديث أخرى وآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبدأ بحديث عند البخاري، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال رواه البخاري بهذا اللفظ في كتاب الأدب من صحيح. هذا الحديث وهو حديث في الباب فيما يتعلق بكتاب آداب النوم، وآداب النوم متعلقة بما يكون حال الإنسان في نومه، وأغلب أوقات النوم هي الليل، النوم الغالب أن يكون في الليل إلا ما نذر. والله تعالى يقول: من آياته منامكم بالليل والنهار. إذن هناك منام بالنهار، لكن هو النادر الغالب، لأن الإنسان ينام بالليل، والليل محل السكون، والنهار محل الجلبة، لكن قد يحتاج إلى أن ينام في النهار، كان يكون عمله بالليل ولا يجد مجال للنوم إلا في النهار، أو يكون ينام حين القيلولة، حين القيلولة، وهذه كان يفعلها أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة. وأيضا احتاج الإنسان للنوم في النهار إذا كان مريضا أو معذورا، كذلك نساء أطفال، كل هذا يحتاج إلى النوم في النهار. والنوم هذه نعمة من الله تعالى، من نعم عظيمة من الله تعالى على عباده، لأن الإنسان إذا نام استرخى، استرخت عضلاته، تجدد القوة، قوته تجدد، فيأخذ طاقة جديدة للعمل، فينشط، يقوم نشيط، يعمل. وإذا عمل تعب يحتاج إلى استرخاء وإلى نوم. والنوم من خصائص البشر، البشر ينامون، الحيوانات تنام، الإنسان ينام، الطائر ينام، كل ذلك ينامون، لكن هناك من لا تأخذ سنة ولا نوم، سبحانه والله لا تأخذ السنة لمقدمات النوم ولا نوم. فهذا من باب الكمال أن الله تعالى كامل، أما البشر عندهم قصور، ولذلك يحتاجون إلى النوم، يحتاجون إلى ما يكون فيه عانة لأيامهم وهم يتحركون في الحياة بين جهد وبين غير ذلك. الله تعالى يقول الله توفى الأنفس حين موتها، يعني النوم هذا موت صغرى، موت صغرى. ولذلك قالوا الروح تخرج، لكن الروح ليست مفارقة الجسد وإنما على اتصال، واتصالها يظل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه، يعني الله تعالى توفى كل نفس حينما تموت تفارق الدنيا، هذا موتة يعني نهائية، الروح تفارق الجسد مفارقة كاملة، ثم تعود لملازمته في البرزخ، لكن في الدنيا لا تفارقه إلا حال الموت النهائي. لكن قال والتي لم تمت في منامها، يعني في نوع مفارقة، نوع مفارقة للروح، مفارقة الجسد، ولكنها ليست كالتي تكون أبدية. والتي لم تمت في منامها يتوفاها في منام حال منامها. ثم قال فيمسك التي قضى عليها الموت، اللي عليها الموت النهائي يمسكها الله تعالى ما تعود إلى الجسد، وهي الأولى التي ذكرها في الآية. قال ويرسل الأخرى التي قبضت في حال النوم، يرسلها الله تعالى فتعود للجسد وينطلق. وهذه إلى أجل مسمى، قال إلى أجل مسمى، أي إلى أجل محدد وهو عند حصول الموت النهائي، هذا هو الأجل المحدد لها. وهذا من خلق الله ومن حكمته في خلقه ومن إراداته التي تنفذ. قال تعالى وهو الذي توفاكم بالليل والنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار، إذن هو يتوفانا بالليل ويتوفانا بالنهار، هذه الوفاة كلها متعلقة بهذا بالنوم، ليست وفاة نهائية. والوفاة النهائية تحصل بالليل والنهار لمن قضى الله تعالى أعمارهم وانتهت، يميتهم الله تعالى. قال ثم يبعثكم فيه، أي في النهار بالليل، وهذه منامات إيش؟ قبضة النوم، قبضة الروح إلى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم، أي عند الموت النهائي. تفضل يا
السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وضع الشيخ حفظه الله ورعاه il a expliqué que on reprend là où on s'était arrêté précédemment dans la doura précédente, puis on reprend dans le livre Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et nous rentrons à présent dans le chapitre des comportements à adopter liés au sommeil, c'est-à-dire des adabs rapportés basés sur des ahadiths qui sont pour la plupart authentiques, car l'imam an-Nawawi rahimahullah a rapporté des ahadiths qu'il considérait authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certains ont été considérés comme étant faibles par des ulémas, mais leur ma'ana est correcte. Et dedans on aborde les différents types de adabs basés sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première section que nous allons aborder, c'est le adab lié à ce qui est lié au sommeil, lorsque la personne va dans sa couche afin de s'apprêter à s'endormir. Et le premier hadith de ce bab, c'est le hadith de Bara ibn Azib radiallahu ta'ala anhu, qui est rapporté dans Sahih al-Bukhari, et la formulation vient de lui rahimahullah. La traduction approximative de ce hadith mentionne que Al-Bara ibn Azib radiallahu anhu rapporte que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam allait à sa couche, il se couchait sur son côté droit, c'est-à-dire qu'il se mettait sur son flanc sallallahu alayhi wa sallam, et disait, selon la traduction approximative du ma'na du hadith, « Oh Allah, je te soumets mon âme, j'oriente mon visage vers toi, je m'en remets à toi et je m'appuie sur toi dans l'espoir de ta récompense et dans la crainte de ton châtiment. Il n'y a de refuge ni de secours contre toi qu'auprès de toi. J'ai cru en ton livre que tu as fait descendre à ton prophète que tu as envoyé. » Et ceci est la formulation qu'on retrouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Et donc ça, ça fait partie des adabs lorsqu'on veut s'apprêter à dormir, de faire cette dua. Et le cheikh, il aborde la mas'ala qui est liée au sommeil. Il explique que le sommeil, c'est une caractéristique qui est liée à l'homme, et en général, l'homme, il s'endort la nuit. La majorité du temps, quand la personne va rentrer dans son sommeil, ça a lieu de nuit. Ça peut arriver de jour, mais la généralité de ça, c'est que ça a lieu la nuit. Il ramène le verset où Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ » C'est-à-dire, et parmi les signes d'Allah, parmi ces signes, il y a votre sommeil, de nuit comme de jour. Donc ça, c'est un dalil qui prouve que des fois, le sommeil peut avoir lieu de jour aussi. Mais il dit la généralité de l'être humain, c'est qu'il dort la nuit, car en général, la nuit, c'est un moment qui est pour le repos, qui est propice au repos, à ce que l'homme retrouve de ses forces. Et la nuit et la journée est un moment pour l'activité et pour tout ce que l'homme a besoin dans sa vie quotidienne. Et de temps en temps, ça peut être amené à être l'inverse. Une personne, par rapport à son travail ou pour une situation particulière, peut être amenée à travailler de nuit et à se reposer de jour. Ou tout simplement dormir de nuit et des fois avoir du sommeil de jour, comme par exemple ce qu'on appelle Al-Qayloula, la sieste qui était connue, que les Sahaba radhiyallahu anhum accomplissaient, qui est une sieste qui a lieu de jour. C'est pas une très longue sieste, mais c'est une sieste qui a lieu de jour. Après, d'autres types de personnes peuvent avoir recours au sommeil de jour, semblable aux femmes, les enfants, ou la personne si par exemple elle est atteinte de maladie, pour une raison spécifique, elle a besoin de dormir la journée. Et il faut savoir que le sommeil, le cheikh a mentionné une deuxième faïda par rapport à cette chose-là, c'est que le sommeil, c'est un bienfait d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla sur nous, car l'homme, dans sa journée, il se fatigue, il s'épuise, et il retrouve ses forces, il se ressource, et il redevient actif après avoir eu recours au sommeil. Donc la personne, elle y trouve du repos, elle retrouve le repos, elle retrouve sa force, se ressource, et se lève alors active, et elle est capable d'œuvrer pour ce qu'il a besoin d'acquérir dans cette dunya, et donc il a besoin de sommeil. De même sorte que les êtres humains ont besoin de sommeil, et ils ne peuvent pas s'en passer, les êtres humains et les animaux sont semblables. Dans ce sens que les animaux aussi, les autres animaux qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créés, ont besoin de sommeil. Et en cela, ça montre une chose par rapport à Allah tabaraka wa ta'ala, ça montre la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, car nul sommeil ni nulle somnolence. Sachant que la somnolence, c'est le prémisse du sommeil. La somnolence, c'est quand on commence à se fatiguer, on commence à, entre guillemets, perdre conscience, on commence à faiblir dans notre attention, puis on tombe dans le sommeil. Allah n'est pas atteint par ces choses-là, ce qui prouve subhanahu wa ta'ala sa perfection. Comme Allah a dit dans la sourate Al-Baqarah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, nul sommeil ni somnolence ne le saisissent. Subhanahu wa ta'ala. De ce fait, après le cheikh hafidhahullahu wa ra'ahu, il a mentionné par rapport au fait que il se passe des choses lorsqu'on dort. Notre âme sort de nos corps. Il est rapporté dans le Coran qu'Allah Azzawajal a dit, traduction approximative du sens de sa parole Azzawajal, et Allah, il est celui qui recueille vos âmes lors de vos morts. Et il est rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala recueille les âmes, et il y a des âmes qui sortent durant le sommeil, et ce n'est pas une sortie définitive. Tandis qu'après, à la mort, la véritable mort, celle qui fait que l'âme sort définitivement du corps et il y retourne après. C'est une séparation tranchée, complète, et après il y revient dans le barzakh. De telle sorte, c'est pour ça que certains ont appelé le sommeil la petite mort. Barakallahu fikum.
هذا الحديث الذي معنا حديث البراء بن عازب هذا أحد الأذكار أذكار النوم وإلا في النوم أذكار كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها أنه إذا أوى إلى فراشه يأتي بأذكار منها أن يقرأ آية الكرسي ويقرأ أيضا معوذات ويسبح الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 مرة ولا يتمها بلا إله إلا الله وحده ولا شريك لك كمثل بعض الصلوات هذه غير واضح الذكر الوحيد يعني. وهناك أذكار أخرى اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه هذا أيضا من الأذكار إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح هذه كلها أيضا من الأذكار وهذا عند البخاري أيضا هذا فيذكر ما شاء الله له من الأذكار وما شاء له من الذكر ويقرأ أيضا أواخر سورة البقرة هذه أيضا واردة عند النوم كذلك يقرأ سورة السجدة واردة عند النوم كان رسول الله يقرأها كل ليلة وسورة التبارك أيضا عند النوم كهذه كلها يقرأها عندما يهم أن ينام وقبل ذلك توضأ صلي ركعتين، كل هذه سنن. والأفضل أن يقرأها وهو ضجع، قد وضع ظهره على جنبه، لكن قد يبادره النوم إذا وضع ظهره على جنبه فلا يستطيع يكمل هذا الذكر. إذن هنا يأتي بهذه الأذكار وهو قاعد على سريره أو جنب السرير يستعد يعني النوم، كل هذا يجوز. وهذه الأذكار مما تكون حماية للإنسان بإذن الله، كل أذكار عظيمة فيها دعاء، فيها تضرع، فيها طرد للشيطان، نفس الأمارة بالسوء أيضا، كل هذه واردة في الأذكار. فإذا جاء عندما يريد آخر كلام أن يكون في كلامه من الدنيا اضجع على يمينه، على جهة اليمين، هذه السنة، كل هذه الأمور سنة، ما هي واجب الفريضة يعني، لو تركها لا يأتم، لكن فيها خير عظيم لا ينبغي الإنسان يتركها. أنت لما تجي في أمور خير لا ينبغي تركها، لأن هذه الزات تتزود في الدنيا ينفعك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وعمل طيب وعمل صالح. فإذا يعني قاربت من النوم تضجع على شقك الأيمن، اللي هو هذا الشق الأيمن، ثم تضع يدك تحت وجهك من جهة اليمين، كف تحطه تحت إيش؟ الصماخ الأيمن وأنت راقد الآن. هذه استطعت، كل هذه السنة. ثم تأتي بهذا الذكر الذي معنا، اللي هو من رواية البراء بن عازم. قال في البراء بن عازم أن رسول الله فعل ذلك وعلمه ذلك، فقال يعلم هذا الصحابي: قل اللهم أسلمت نفسي إليك، يعني سلم نفسه خلاص، ما له حول في الدنيا هذه ولا له شيء قدرة، هو مسلم نفسه من أول، لكن الآن سلم نفسه تسليما كامل لأنه ليس فيه في يقظة الآن، فتسلم نفسه لله تعالى. ووجهت وجهي إليك، الآن هو متجه إلى جهة القبلة، هذا أفضل. وإذا لا غير متجه القبلة ما ضر شيء، ما يلزم لازم جهة القبلة، ممكن إلى أي جهة، فهو اتجاه إلى الله تعالى حيث ما كان، فقول له يوكم شطرة، وهذا الشطر في الصلاة. قال: وفوضت أمري إليك، يعني كل ما يجري لي وأنا في منامي وغير ذلك الأمر إليك يا رب، الخير منك وإليك، والشر ليس منك ولكن ممن تسلط على البشر على حال وحال، والأمر إليك أن يضرهم ولا يضرهم. وألجأت ظهري إليك، يعني ظهره الآن الذي ينام عليه، رغبة ورهبة إليك، يعني أرغب في خيرك، وكل خير يأتيك من الله تعالى هو منه سبحانه وتعالى، منه وكرم وفضل، رغبة ورهبة أي خوف أيضا من الله تعالى أن ينالني شيء من القصران فيكون عقوبة لي عاجلة أو آجلة. لا ملجأ ولا منجا، يعني لا موضع استطيع أختفي فيه وألجأ إليه من الله، كل ما دون الله تعالى فهو ضعيف ليس له قدرة، فالله له قدرة مطلقة على عباده، فلا ملجأ إلى أحد هروبا من الله تعالى، ما هناك أبدا، إنما الملجأ إلى الله، تخاف منه وتلجأ إليه، مثل الطفل الصغير، الطفل الصغير لربما أمه تضربه أو أبوه يضربه، ولكنه أيضا يهرع إلى أبيه، وهو يضربه ويتمسك بأبيه، وهو يضربه يبكي عند أبوه، وكأنه يقول ارحمني، أنت ضربني أما علي إلا أنت، فاشفق عليه أبوه، ارحمه، وما يضربه إلا لمصلحتي. فأنت الآن ترجع إلى الله تعالى، وإن صابك ضرب ترجع إليه أيضا، ما أحد ينجيك إلا هو. فهذا استسلام كامل عبد لله تعالى في هذه اللحظات، لأنه قد يرحل من الدنيا في هذه اللحظات. كم من ناس نام ولم يستيقظ، كانت هي النوم الأخيرة ومات. فيقول: لا ملجأ ولا منجا، أي مهرب منك إلا إليك. آمنت بكتابك. ما هو كتابك؟ قرآن. آمنت بما جاء فيه أحكام، ومع الإيمان عملت. هذا المقصود بالإيمان، ليس معنى آمنت بمعنى إيمان نظري، لا. الذي أنزلت على نبيك عليه الصلاة والسلام، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ولما علم الرسول عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب هذا الدعاء العظيم، أراد أن يختبره هل حفظه أم لا، لأن الآن مطلوب أن تحفظه، تأتي به في هذا الموضع. فقال ما قلت لك آتي به، فقال هذا الذكر مثل ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عندما جاء في آخر جملة ذا ما يقول نبيك قال ورسولك الذي أرسل، قال لا، قل ونبيك الذي أرسل. دقة في حفظ اللفظ التعبدي، هذا لفظ تعبدي، لا تأتي بالتلفظ يقول عندك شيء، قال ونبيك الذي أرسل. طب ما فرق بين رسول ونبي؟ الرسول يكون بشر ويكون ملك، البشر مثل الرسول عليه الصلاة والسلام محمد، والملك مثل جبريل، لكن النبي اللي ينبأ هذا بشري بس. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو النبي البشري لأمة الإسلام في آخر الزمان، وهو الرسول وهو النبي البشري. فهنا عندما تقول ونبيك تجمع للرسول عليه الصلاة والسلام الرسالة والنبوة، أنه يوصل إليك وهو ينبأ ويبلغ عن الله تعالى. فصار الألفاظ التعبدية لا ينبغي أن تحولها إلى معاني تأتي بالمعنى لا، وتأتي بألفاظ عندك لا، يأتي بها كما جاءت. مثل الآن لما تستفتح الصلاة تكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، لا تقول بين الشمال والجنوب، لا، أنت تعبدت باللفظ، هذا لازم تأتي اللفظ كما هو، قول المعنى واحد، قول لا ترك معاني، تقيد باللفظ الدعاء الذي جاء عن الله تعالى أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل ذلك، وكل من فعل هذا يرجى أن ينال بركة هذا الدعاء، وهو دعاء يسير، ربما في الأيام الأولى احنا نسيت هذا ماشي حالا ما شاء الله. ها ايه فضل
Le cheikh, hafidhahullah wa ra'ahu, il poursuit concernant les adabs liés au sommeil et il rapporte certaines des sunnans, des sunnans qui sont authentiquement rapportées du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les du'as, les adhkar et parmi les parties du Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait avant de dormir. Parmi elles, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait avant de s'endormir ayat al-Kursi, le verset Al-Kursi, je préfère ne pas traduire, barakallahu fikoum, je vais pas rentrer dans le tafsir, bas. Ayat al-Kursi, qui est le verset numéro 255 de Surat al-Baqarah. Ensuite, il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui récitait al-Maw'idatayn, sallallahu alayhi wa sallam, avant de se coucher, avant de s'endormir, sallallahu alayhi wa sallam. Également, il est rapporté qu'il faisait le tasbih 33 fois, le tahmid 33 fois, le takbir 33 fois, et la dernière fois, il ne faisait pas la dua qui était connue, mashru'a, mais c'était une autre forme de dhikr. Le tasbih étant le fait de dire subhanallah, le tahmid étant le fait de dire alhamdulillah, et le takbir le fait de dire Allahu Akbar. Et d'autres du'as et d'autres adhkar ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, il y a également le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait les deux derniers versets de surat al-Baqarah avant de s'endormir sallallahu alayhi wa sallam. Il est également rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il récitait surat al-Sajda toutes les nuits avant de s'endormir sallallahu alayhi wa sallam. Il est également rapporté parmi les sunnans du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il récitait surat al-Mulk avant de s'endormir. Et parmi les sunnans également rapportés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le fait de faire le wudu avant de s'endormir et de faire deux rak'a. Toutes ces choses, le cheikh a dit, hafidhahullah wa ra'a, font partie des sunnans attribués authentiquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, la personne elle peut être amenée à faire cette forme d'adhkar allongée, mais il se peut que des fois la personne elle peut être dominée par son sommeil. Dans ce cas-là, elle peut faire ses adhkar assis sur son lit. C'est-à-dire afin de ne pas faiblir dans ses adhkar par rapport au fait que le sommeil le submerge. Et parmi ces doigts, il y a beaucoup de choses et de fawaid qu'on en tire. Et il ne faut pas oublier que des fois, ces choses-là, ce sont nos dernières paroles. Ça peut être nos dernières paroles. Car comme le chien l'a mentionné un peu plus loin, il y a ni combien de gens qui se sont endormis et ne se sont pas réveillés. Ils sont morts dans leur sommeil. Donc ça, ça peut être vos dernières paroles. Et il dit que donc, lorsque tu t'apprêtes à prononcer des dernières paroles avant de t'endormir, mets-toi sur ton côté droit et mets ta main sur ta joue droite. Et tu peux faire alors les attaques qu'on a mentionnées, les doigts, les attaques qui ont été mentionnées précédemment. Et il dit que ça, c'est une sunna. C'est-à-dire que la personne qui viendra délaisser ces choses-là, à délaisser la pratique de ces choses-là qu'on a mentionnées, il n'est pas dans le péché. Il n'est pas tombé dans un péché, mais il a délaissé un grand khair. Et ce grand khair, il n'est pas approprié pour que le musulman, qui veut le bien pour sa propre personne, il délaisse ce genre de khair. Et il a rappelé le verset dans la traduction approximative du sens est, en faisant référence à Yom Al-Qiyamah, le jour où nulle utilité ne sera dans les biens et ni dans les enfants, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Donc, et le cheikh, il a mentionné certaines doigts, et là, il a expliqué le dhikr, c'est-à-dire que le hadith du bab, qui est rapporté par Al-Bara ibn Azib, il l'a expliqué. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il a dit, Yani, je te soumets mon âme, il dit, c'est en fait, c'est la soumission totale à Allah Azzawajal, et le fait de se remettre à lui, Azzawajal. Et le fait d'orienter son visage vers lui, c'est le sens que tu peux dormir vers la Qibla. Vers la Qibla. Ce n'est pas une obligation. Barakallahu fikum. Et lorsqu'il dit que je m'en remets à toi et je m'appuie sur toi, c'est-à-dire placer sa confiance en Allah. Parce que quand on dort, il se passe des choses. Il se passe des choses pendant qu'on dort. On ne peut plus gérer les choses qui se passent dans notre vie, etc. Il y a des choses qui se passent. On se remet à Allah Azzawajal par rapport à ce qui se passe. Car c'est le bien vient de lui et le mal ne lui est pas affilié et c'est lui qui est le garant de toute chose. Et le fait qu'il s'en remet à lui, cherchant par désir envers lui, subhanahu wa ta'ala, et par crainte envers lui. C'est-à-dire le désir, on désire le bien qu'Allah Azzawajal possède. Car toute forme de bien qu'on souhaite acquérir dans cette dunya, c'est Allah qui le possède. Et c'est Allah qui le pourvoit. Donc c'est le fait qu'on désire, c'est le bien qui vient auprès d'Allah et qui donne en tant que grâce et bienfaisance à ses serviteurs. Et ar-rahba, l'effroi, la peur, c'est le fait, la peur de la conséquence de nos actions, c'est-à-dire le châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et le fait qu'il a mentionné qu'il n'y a pas de refuge ni de secours contre Allah qu'auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu as peur d'Allah, azzawajal, tu as peur qu'il te châtie, mais au lieu de le fuir, ça va te pousser à te rapprocher de lui. Car plus tu te rapproches de lui, plus tu t'assures d'être protégé de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Et la dernière partie du hadith qui mentionne le fait que, après on mentionne dans le dhikr, j'ai cru en ton livre. Et le cheikh a posé la question, et certains d'entre vous, hafidhakumullah jami'an, ont répondu, j'ai cru en ton livre, c'est-à-dire Al-Qur'an Al-Karim. Mais le cheikh, il a donné une nukta, il a donné un point important. Ce n'est pas juste de dire j'ai cru dans le Qur'an, fatah. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Ça doit être quelque chose qui se met en pratique. C'est-à-dire qu'on a une foi dans le Qur'an et qu'on met en application ce que le Qur'an contient comme enseignement. On le pratique. Et le fait d'avoir la foi dans le messager que tu as envoyé, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Hafidhahullah, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir enseigné ce dhikr à Bara ibn Azib, il a voulu tester, est-ce que son hifz il était mutqin ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il avait mémorisé le dhikr tel qu'il a été mentionné? Car le cheikh, il explique que les du'as prophétiques, on les mémorise tel quel. Il dit, quand tu veux faire une du'a qui est liée à la sunna, tu dois la faire telle qu'elle a été prononcée. C'est pas que tu commences à venir avec des transformations qui viennent de toi. Tu prends une doa prophétique et tu la formules comme toi, elle te plaît. Là, il dit, tu prends telle que ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la fin du hadith, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, il l'avait mémorisé parfaitement, sauf à la dernière partie, au lieu de dire Nabiyika, il a dit Rasulik. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé. Et il lui a spécifié, et ça montre la précision qui est donnée dans la mémorisation des akhkar du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, Hafidhahu Allah, il a expliqué quelle est la différence entre un Nabi ou un Rasoul. Quelle est la différence entre le prophète et le messager. Et en fait, pourquoi il est plus précis de dire dans ce cas-là qu'il est prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cadre-là? Car un Rasoul, le messager, ça peut être un être humain, comme le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, mais ça peut être aussi un ange. Comme l'ange Jibril, c'est un Rasoul, c'est un messager. Tandis qu'un Nabi, le prophète, ça ne peut désigner qu'un être humain. Donc c'est plus précis. Et donc le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a rassemblé en lui-même Al-Risala et Al-Nubuwa. Il est en même temps un prophète et il est en même temps un messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le shir a encouragé que les gens, lorsqu'ils mémorisent les adhkar, à la base, qui sont prophétiques, qu'ils ne les mentionnent pas avec des transformations. Par exemple, il avait donné l'exemple, écarte-moi des péchés, de la distance qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Certains peuvent dire, du Nord au Sud. Il dit, non, ne viens pas avec des choses de toi-même. dit, contente-toi de ce qui a été rapporté authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
كما ذكرنا في مسألة الأذكار أن الإنسان في البدء لربما يضطر إلى قراءة الذكر من ورقة أو كتاب لأنه لم يحفظ بعد، لكن مع الأيام يومين ثلاثة أربع يصير بعد ذلك الذكر محفوظ عنده، يعني بكل سهولة يستطيع أن يقرأه. ففي الأيام الأولى قد يشك عليه، لكن يصبر، التعليم يحتاج إلى إنسان يصبر عليه ويأتي تدرج. فلذلك تجد أنك إذا حفظت هذا الذكر ربما في الأسبوع الأول يكون عندك شيء من النسيان في بعض أجزائه، لكن تراجع كل ليلة، بعد أسبوع أسبوعين يصبح هذا الذكر عندك زي شربة الماء سهل، فيكون ذكرا يعني سهل التلفظ به والإتيان به. وهذا الذكر الذي علمه الرسول عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب جاء أيضا له حديث آخر وهو متفق على عند الشيخين، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضئي وضوءك للصلاة ثم اضجعي على شقك الأيمن. فهذا حديث أيضا جاء من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه زيادة أنه قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا لم يرد في حديث البراء بن عازب، فدل على أن يبدأ بالوضوء قبل النوم، وهذه السنة ماثورة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن من توضأ قبل نومه وصلى ما شاء الله ركعتين سنة هذا الوضوء، ثم جاء مضجعه ونام وقال هذا الذكر، ثم تعار بالليل أي قام بالليل، إذا تعار بالليل واستيقظ قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم قال سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول إلا بالله ربي اغفر لي، قال الله غفرت له، وما يدعو بعد هذا بدعاء إلا أجابه الله له. انظر الشيء الثمين الذي للبشر لمن استسلم لله تعالى، ما تدعو بشيء في هذا الموضع إلا يتقبل الله منك ويأتيك سواء قرب أم بعد، لازم يوفق الله كذا الأمر. وإذا قال أهل العلم ما احتجت إلى أمر إلى الله تعالى إلا يدعوه في هذا الموضع، واحد عقيم ما عنده يريد أولاد يدعو في هذا الموضع يسر الله له، واحد فقير واحد مريض غير ذلك، هذا موضع دعاء مجاب. قال فإن قام وصلى ركعتين أو ركعات له هذا بلغ منزل عالية جدا، فما يسر الأمر، لكن الشيطان يدي ينومك قسلك ينسيك، لكن الحريص ما ينسى، حريص يهتم بهذه الأمور. إذن في هذا الحديث في زيادة الوضوء والدعاء، قال واجعلهن آخر ما تقول، هذا الدعاء دعاء براء بن عازب آخر ما تقول. نعم.
الشيخ حفظه الله تعالى poursuit dans le sujet des azkars liés au sommeil et il explique que la personne au début elle va être amenée dans les débuts dans le fait de vouloir s'initier au fait de réciter les azkars prophétiques. Il se peut que la personne soit amenée au début à lire sur des bouts de papier, c'est-à-dire il va lire sur le support papier au début, il ne mémorise pas encore, donc il va se baser sur un support papier et les réciter à partir de lui. Et au fur et à mesure, il va commencer à s'habituer et à commencer à les mémoriser. Au bout d'un moment, il va les mémoriser, mais sa mémorisation ne sera pas forcément stable. Des fois, il va oublier des morceaux, il va oublier des passages. Mais au fur et à mesure qu'il les récite et qu'il les utilise dans son quotidien, ces formules de rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam restent et sont mémorisées à tel point qu'il les récite avec précision et rapidité, de la même manière qu'on boit de l'eau. Et par la suite, ça devient un frère aisé. Il ramène ensuite la deuxième riwaya qui est rapportée de Aïcha radhiyallahu anha, qui mentionne, si tu t'apprêtes à aller à ta couche, alors accomplis les ablutions que tu accomplirais pour la prière. Puis mets-toi dans ta couche sur ton flanc droit. Il dit cette ziyada, c'est-à-dire elle mentionne le fait de faire le wudu. Donc le cheikh il rapporte des fawaïd, des bénéfices liés à l'importance de faire le wudu avant de dormir. C'est-à-dire qu'avant même de faire le dhikr qu'on a vu et qu'on a étudié à présent, le fait de faire le wudu, puis de se rendre dans sa couche, puis en se mettant dans sa couche, on fait le dhikr qu'on vient d'étudier tous ensemble. Et il rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique que si une personne, elle fait le wudu, puis elle accomplit, par exemple, deux rakats, comme le rakatayn de l'wudu, qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est établie de lui, alayhi salatu wa sallam, puis, au moment où il s'apprête à dormir, il dit le dhikr.
إذا تعرى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا أول ذكر. ثم بعد ذلك رب اغفر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد ذلك رب اغفر لي وارحمني ويدعو ما شاء الله لهم الدعاء.
Et le cheikh Hafidhahullah, après avoir mentionné cette doa, j'espère que vous avez pris le temps de la noter. Au pire, inshallah, si vous avez les enregistrements, bien notez-la et mémorisez-la, car c'est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est mentionné, c'est qu'après, la personne, si elle vient à demander à Allah azza wa jalla pardon en ce moment-là, la personne sera amenée à être pardonnée, inshallah ta'ala. Et s'il venait à faire une doa, sa doa serait exaucée. Et il dit donc c'est un moment privilégié. Car le moment où les doigts sont exaucés, c'est un moment privilégié pour demander à Allah Azza wa Jalla ce que tu as besoin. Et c'est le moment d'y prononcer ton besoin à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'être exaucé bi'idhnillah. Donc c'est un moment précieux, un moment important. Et c'est un moment que tu ne dois pas délaisser, car le shaitan, il est diligent dans le fait de faire oublier à la personne ou la fainéantise vient et la personne finit par délaisser ce genre d'opportunités qui sont rares et importantes.
Qala al-hafidh an-Nawawi ba'd dhalik wa an Aisha أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجي المؤذن فيؤذنه يعني للصلاة متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان من مهام الليل وسننه وعباداته ويتطوع ونفل قربة إلى الله تعالى. وصلاة الليل شأنه عظيم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واظب على قيام الليل حتى في السفر، وكان قيام الليل واجب عليه أول بعثة. قل الله تعالى في هذا الأمر العظيم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل كثير. يا أيها المزمل قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وهكذا جاءت الآيات الكثيرة أيضا تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على قيام الليل ويواظب عليه. في هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل وكان لا يزيد على 11 ركعة، ولكنها كانت صلاة طويلة في الغالب. وهذه سنة نستنى بالرسول في قيام الليل. ولو دون ذلك، لو ما قمت إلا ركعتين فأنت على خير عظيم، لكن حافظ على قيام الليل فإنك لن تندم، وسترى ذلك يوم تفارق هذه الدنيا. وقد جاء عن السلف الصالح آثار تبين عظم قيام الليل. ذكر في تاريخ عن زبيدة زوجة هارون الرشيد رحمها الله تعالى، كانت قد حفرت بئر روما بئر عين زبيدة بئر عين زبيدة في مكة ويشرب منها الحجاج من ذاك الزمان في العصر العباسي إلى يومنا الآن. كم من الملايين شربوا منها، مشهورة عين زبيدة وسقي الماء في أجر عظيم. فلما ماتت هذه المرأة رؤيت في المنام أراها من الصالحين، ما فعل بك ربك يا زبيدة؟ قالت خير كثير 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 كثير، يعني الله تعالى أكرمها بعد موتها. قال لعل ذلك بعين زبيدة في البير هذه وما استقى منها الناس. قالت أين عين زبيدة؟ دعك منها. لماذا؟ قالت بركعتين في جوف الليل كنت لا أدعهما في كل ليلة، ركعتين بس. كم تأخذ ركعتين؟ 5 دقائق 10 دقائق، وإن أطلت نص ساعة وأنت في خير. في هذه اللحظات هذا تنزل الله تعالى فيها، تنزل الله تعالى إلى السماء الدنيا كما جاء في نصوص الشرع أن الله يتنزل. نؤمن بهذا ونكر ولا أدري كيف كيف. فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته، هل من سائل؟ فكان زبيدة حافظ على هذا. فانظر يا رعاك الله كيف أهمية قيام الليل، الرسول كان يحافظ على قيام الليل. قالت عائشة رضي الله عنها قالت ثم إذا طلع الفجر، يعني أدى الفجر الصادق وهو إذان ابن أم مكتوم، قالت صلى، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين لرغيبة الفجر، يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية الفاتحة قل هو الله أحد، خفيفة ما يطيل فيها. إذا ركع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، حتى لو مرة خلاص لأنها خفيفة هذه. ثم يرفع، وإذا سجد سبحان ربي الأول مرة لأنها خفيفة هذه ركعتين. حتى قالت عائشة كأني أني كنت أظن كأنه لا يقرأ الفاتحة، ويقرأ الفاتحة، وهذه صور قصيرة. ثم يضيع على شقه الأيمن حيث صلى، فيظل على في هذه الحالة حتى يؤذن، حتى يأتي بلال ويقيم الصلاة ويؤذن يقول لقد قام الصلاة. فهذه أيضا من سنن الليل وبركاتها عظيمة. قالوا عن حذيفة رضي الله عنه،
الشيخ حفظه الله ورعاه، il aborde à présent un autre aspect de la vie du musulman lié au sommeil, et c'est les nawafil accomplis durant la nuit. Il aborde que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un statut très particulier vis-à-vis de ce qu'on appelle qiyam al-layl, la prière de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de la prophétie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui était rendu obligatoire sur lui sallallahu alayhi wa sallam de prier les prières de nuit. Comme il est rapporté dans le Coran, à de nombreux endroits, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait beaucoup de nuit. Et il préservait le qiyam al-layl. Il était constamment dans l'application et dans le fait de faire qiyam al-layl de façon fréquente et régulière. Et cela même durant ses déplacements dans ses voyages sallallahu alayhi wa sallam. Il priait de nuit, et sa prière de nuit sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté authentiquement dans sa sunnah, ne dépassait pas 12 rak'a. Mais cependant, ces rak'a... N'hésitez pas à faire des trucs comme ça. Et donc la prière de nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas 11 rak'a, mais elles étaient longues. Sallallahu alayhi wa sallam, il priait de longues rak'a. Donc on essaie de limiter, on essaie d'émuler ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en pratique en matière de rak'a. Mais si on fait en deçà, il n'y a pas de mal, et ça reste quand même le fait de faire 2 rak'a, c'est un grand khair à ne pas délaisser. C'est un grand khair. Et il est même rapporté dans l'histoire, par rapport à l'histoire de certains salaf, l'histoire de Zubayda, la femme de Harun ibn Rashid, rahimahullah, qui faisait partie des gouverneurs abbassides, de la dynastie des Abbassides. Et cette femme-là avait été connue par rapport à un puits dans lequel elle avait fait aumône pour les gens. C'est-à-dire que c'était un puits duquel les hujjaj à Mecca étanchaient leur soif. Et on sait que dans la sunna de la charia d'Allah Azzawajal, il est rapporté que le fait d'étancher la soif d'un musulman, de donner de l'eau à quelqu'un, c'est quelque chose qui rapporte un grand ajr auprès d'Allah Azzawajal. Et cette femme-là avait donné un puits pour cet usage-là, pour les pèlerins. Donc ça fait peut-être des années que les gens en ont bénéficié et ont étanché leur soif avec. Et lorsqu'elle décéda, elle fut vue dans la vision d'une personne pieuse, qui la vit et lui demanda, « Qu'a donc fait de toi ton Seigneur ?» Et elle lui dit, « Du khair !» Et la personne lui dit dans le rêve, « C'est sûrement de par ce que tu avais fait comme œuvre de bien par rapport au puits. » Elle lui dit, « Non, laisse ça. » C'était par rapport à deux rak'a que j'avais accompli la nuit. Donc elle mentionna que la situation dans laquelle elle s'est retrouvée, bi'idnillah, de par la grâce et la miséricorde d'Allah, tabarakata sur elle, ce n'est pas lié au fait d'avoir fait un puits pour les gens, c'est par rapport à deux rak'a. Deux rak'a faites la nuit. Donc ça c'est quelque chose de très important, sachant que le shir, il a mentionné une masala, qui était une masala très importante de croyance, et qui est liée à ce moment-là, à Nuzul. Le fait qu'Allah, tabarakata, le Seigneur de l'univers, descend. Il descend au premier ciel de la dunya, au ciel le plus proche de nous. Il descend, subhanahu wa ta'ala, et nous affirmons tel que c'est venu dans les textes, et nous ne cherchons pas à rentrer dans le comment. Sa descente n'est pas semblable à la descente de ses créatures, et Allah Azza descend d'une descente qui sied à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, et on ne lui attribue pas de kef, on ne sait pas comment le kef est. Allah fait des choses, et on ne sait pas comment il les fait, subhanahu wa ta'ala. Et donc, par rapport à cette descente-là, il est mentionné que Allah Azza wa Jalla, après sa descente, s'adresse à sa création, et demande, qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Et qui me demande afin que je lui demande? Qui m'invoque afin que je l'exauce? Donc ça montre l'importance de ce moment-là. L'importance de faire Qiyam al-Layl, l'importance de faire Daraka, et l'importance du fait que le Seigneur de l'univers s'adresse à sa création demandant qui lui demande pour qu'il lui donne. Et il est rapporté dans la suite du hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait fini de prier sallallahu alayhi wa sallam, Et que Fajr entrait dans son heure, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Fajr al-Sadiq, c'est-à-dire la réelle entrée de Fajr dans son heure, qui était accomplie par le deuxième Adam. Et à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait deux rak'as surérogatoires, légères, extrêmement légères. Dans la première rak'a, il récitait la surat al-Fatiha, puis Ya ayyuha al-Kafirun, la surat al-Kafirun. Puis dans la deuxième rak'a, il faisait la Fatiha, puis Qul huwa Allahu Ahad. C'était des rak'as très, très légères, au point que même, par exemple, tu pourrais faire dans les wajibats, dans Subhan Rabbi al-Azim, tu le dis une fois. C'est ce qui est obligatoire, tu peux le faire une fois, tellement la prière était rapide. À tel point qu'il est rapporté que Aïcha, lorsqu'elle décrivait cette prière-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle disait, j'avais l'impression que comme s'il ne récitait même pas Fatiha. Mais bien sûr, on sait qu'il l'a récité sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci est pour imager la rapidité de fait que cette prière était très légère dans son accomplissement.
Hadith al-Rabi fil bab, qala wa an Hudhayfa رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعة من الليل يعني مضجعة عند موضع النوم يعني الضجع ينام يعني وضع يده تحت خده أيضا نفس الوضع ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا هذا دعاء غير الدعاء الذي مر معنا دعاء البراء بن عازب أيهما آخر واحد؟ من يجيب؟ هذا الدعاء دعاء حذيفة الذي علمه الرسول قال إذا خط مضجعك وضع يدك تحت يمينك تعني جهة اليمين وقول هذا الدعاء اللي ويش اللهم باسمك أموت وأحيا هذا الدعاء أيضا في نفس الموضع عند النوم وذاك دعاء براء بن عازب أيضا في نفس الموضع عند النوم أيهما الأول وأيهما الآخر واحد
أيوه. Le cheikh il pose une question. Il explique que le hadith suivant, qui est le hadith de Hudhayfa radhiyallahu anhu, lorsqu'il disait que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait à sa couche pour la nuit, il mettait sa main droite, il mettait sa main sous au niveau de sa joue, puis il disait oh Allah, en ton nom je meurs et je vis. Et il dit que ça, c'est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de se mettre dans sa couche et au moment de s'endormir. Et c'est un dhikr qui est différent du dhikr qu'on a vu précédemment rapporté par Al-Bara ibn Azib. Maintenant, il pose la question, qui peut dire lequel est en premier?
Man yujib. Barakallahu fik, jazakallahu khair, ahsant. دعاء براء بن عازب آخر لأن رسول قاله وليكن آخر كلام إذن هذا الدعاء قبله وفي معنى عظيم هذا الدعاء. قل اللهم يا الله، اللهم يعني يا الله، باسمك بسم الله أموت. هذا موتة كبرى ولا موتة صغرى؟ صغرى. هذه ما يتمثل موت بفارق الدنيا. أموت وأحيا، إذن هو سيموت الآن وسيحيا بعد قليل بعد ما يخلص نومه. هذا الدعاء عندما ينام يقول هذا الدعاء لأنه يستعد ليش؟ للموت الصغرى. ويقول أيضا باسمك أموت، بمعنى إيش؟ يعني بإرادتك، هذا معنى باسمك، بإرادتك أموت وبإرادتك أحيا، أنت المالك لروحي. قال وإذا استيقظ، الآن استيقظ صحي من نومه، قل يقول أيضا الحمد لله الذي أحيانا بعد إيش؟ موتنا. بعد الموت يعني أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، يعني بعد الموت الكبرى النشور الله بإذن الله، نشور عظيم هذا لنا وما بعده. وهذه السنة عظيمة، كلمات يسيرة ما أيسر الإنسان يقولها، لكن عظيمة في معانيها وعظيمة في بركتها، لأنها من الله تعالى والرسول يعلمنا ما أوحي إليه. فالإنسان لا يستطيع أن يستحضر أو يعلم بركة هذه إلا بإذن الله تعالى يوم يراها موفق في الدنيا ويوم يلقى الله تعالى. تفضل.
Donc le cheikh hafizahullah wa ra'ahu, il aborde un hadith qui est rapporté par Hudayfa radhiyallahu anhu, qui mentionne que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que si tu te rends à ta couche durant la nuit, tu mets ta main au niveau de ta joue et tu dis Allahumma bismika amutu wa ahya, ô Allah, en ton nom je vis et je meurs. Et comme le frère sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, cette dua là est à mentionner avant la dua qu'on a vue dans le Bara ibn Azib. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné dans la dua de Bara ibn Azib, dans le livre, que ce soit ta dernière parole. Donc c'est important aussi, un point que le cheikh a attiré l'attention, c'est qu'il y a un ordre à avoir dans les dua à faire, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il explique les formulations dans ce hadith, c'est quand tu dis Bismika en ton nom, c'est-à-dire Bismillah, je meurs et je vis. C'est-à-dire je meurs, qu'est-ce qui est voulu? Ce n'est pas la grande mort, c'est-à-dire le fait que l'âme sort par rapport à la mort. C'est ce qu'on appelle la petite mort, c'est-à-dire le sommeil, qui est semblable dans certaines de ses caractéristiques à la mort. Donc on l'appelle la petite mort. Et je vis, c'est-à-dire je reprends vie, dans le sens où lorsque je reprends conscience, c'est que je me réveille après mon sommeil. Et en même sens, c'est le sens aussi de Bismika, c'est-à-dire aussi par ta volonté, car on est tous assujettis à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est lui qui décide si on se réveille ou pas. Et après qu'on reprend conscience et qu'on se réveille et qu'on sort de son sommeil, on dit Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur, c'est-à-dire louange à Allah qui nous a redonné vie après la mort et vers lui le retour. Donc c'est lui qui nous a redonné la vie, qui nous a permis de nous réveiller après que nous étions morts, de la petite mort, et vers lui le retour. Et vers lui le retour, ça fait référence, ça, à la résurrection. Et ces choses-là, ce sont des paroles simples, mais grandioses, qui ont des grands sens, et qui contiennent une grande baraka, car ces paroles ne viennent pas de n'importe qui. À la base, ces paroles viennent d'Allah, et elles ont été révélées par Allah Azza wa Jalla à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman se doit de lui donner de l'importance.
هذه أدعية يقولها الإنسان بلسانه، وحينما يقولها لا بد أن يستحضر معانيها، ولذلك عندما يتعلمها ويحفظها لا بد أن يعرف معانيها حتى إذا قالها يستحضر هذا المعنى العظيم. إذن لا بد من أمر مهم هنا نذكر فيه إن شاء الله، وهو أن الأذكار هذه التي تتعلمها، وأيضا كل ما تفعله في الصلاة وأعظم الفاتحة والأذكار، هذه ينبغي أن تحافظ على حفظها وفهم معانيها والإتيان بها، ثم تعلم أعز الناس إليك ومن دونهم، وأنت على خير في هذا. لو أنت علمت زوجتك، ربما تزوجها وهي ما تعرف هذا، لأنها لم تعلم في بيت أبيها، قصر أبوها، تعلمها. وإذا جاءت وهي معلمة، ربما أنت ما تكون تعلم، ما علمك أبوك، تعلمك إيه، ثم تعلم أولادك من بعدك، اخوانك والديك كل من حولك. والله اليوم حضرنا درس وعلمونا فيه دعاء النوم، تعلم كل من قال هذا الدعاء بعد ذلك انت تنال اجر ذلك الى ان تقوم الساعه. والعلماء يذكرون مساله عظيمه ينبغي التنبه لها، قال اذا بلغ ولدك، يعني بنت او ولد او ابن، اذا بلغ سن التلفظ والحفظ فليكن انت اول من تعلمه. تعلمه مثلا الفاتح، تعلمه بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين، حفظ الفاتحة، أنت اللي حفظت كل يوم، ها ابني أقرأ الفاتحة، أقرأ الفاتحة ما شاء الله. ثاني يوم ثالث يوم هو ما زال عن بداية الكلام وينشأ وهو حافظ الفاتحة، ولا لا؟ الفاتحة متى يصليها؟ الصلاة لما يكبر. لو عاش هذا الولد 70 سنة أو 60 سنة أو 100 أو أقل من ذلك، طول حياته هذا يصلي ويقرأ إيش؟ الفاتحة. كل ما قرأ الفاتحة أنت الماجور فيها، لك أجر عظيم. صور كم قرأ الفاتحة هذا، وكم قرأ ابنك الثاني وابنتك وغير وغير وغير، كل ما قرأ الفاتحة على ميزان حسناتك. شوف الحسنات الكثيرة كم، ها؟ واستأمل حسنات الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الأمة هذه من يوم ما بعث إلى أن تقوم الساعة، كل من فعل فعل خير الرسول ينال أجره، لأنه هو اللي بلغ وهو اللي علم، المعلم الأول. فإذا استحضرت هذا تجتهد. إذا جيت مع صديق بكرة تقول له والله البارح تعلمنا ذكر النوم، تعرف؟ قال لا ما أعرف، علمني. يتعلم كل ما قال أنت ماجور. هذه أجور ما يتنبه لها كثير من الناس، يظن الأجور يعني ايش الظاهر الكبير له. نعم هذه أجور، هذه أعظم أيضا، لك أجر فيها. فتنبهوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم. نعم.
Donc le cheikh hafidhahullah ta'ala mentionne une partie, un point important à retenir par rapport à cette doua. On a vu déjà plusieurs doua par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur nous qui sont authentiquement rapportées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam liées au sommeil. Mais il souligne un point, il met en exergue un point important, c'est qu'il faut que tu comprennes et que tu médites et que tu comprennes bien l'essence de ce que tu mémorises. Que ces doua ne soient pas des doua répétés dont les sens sont vides pour toi, tu ne comprends pas ce que tu récites quelque chose dont tu n'as pas conscience de ce qu'elle implique comme sens. Donc il faut que tu médites dessus et que tu comprennes c'est ce que ça implique, et c'est quelque chose de très important. Et que ces choses-là, tu les apprennes, tu les comprennes, et que tu les récites correctement et que tu les enseignes aux gens. Et il avait donné l'exemple avec la Fatiha également. Et il donne par exemple ton épouse. Si tu viens à être marié par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi, et tu peux alors peut-être lui enseigner une chose que son père ne lui a pas enseignée. Peut-être que son père a manqué à son devoir vis-à-vis de l'éducation de sa femme et donc de sa fille. Et du coup, du fait qu'elle est ton épouse, tu donc combles le manquement de son père en lui enseignant quelque chose que son père a manqué de lui enseigner. Et par la suite, tu enseignes cela à tes enfants. Et après, le shir, il assiste sur un point. Le fait de penser à l'école, la récompense énorme qui est pour celui qui enseigne le khair aux gens. Celui qui enseigne la doa aux gens, celui qui enseigne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux gens, chaque fois que ces gens-là pratiquent cette sunna qu'il leur a enseignée, il a l'ajr qu'ils ont, sans que leur récompense en soit diminuée. Et cela jusqu'au jour de la résurrection. Il donne l'exemple que les ulama, rahimahumullah jami'an, c'est le fait que les ulama, ils ont dit, dès que ton enfant est apte à commencer à prononcer, il balbutie, il commence à prononcer ses premiers mots, enseigne-lui dès cet âge-là et sois diligent dans le fait d'être le premier à lui enseigner les paroles d'Al-Fatiha. Pourquoi ? Parce qu'il dit que ton enfant, tu ne sais pas combien de temps il va vivre. Il se peut qu'Allah Azzawajal lui prédestiné de vivre 100 ans, 60 ans, 70 ans, moins que cela, plus que cela. Mais toute sa vie, il va réciter Fatiha qui fait partie intégrante de sa vie. Chaque fois qu'il récite, tu as l'ajr. Chaque fois qu'il récite, tu as l'ajr. Qu'en est-il si tu as plusieurs enfants ? Ton enfant, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, et ainsi de suite. À chaque fois que ton enfant va l'utiliser, ce doa, il va faire ce doa-là, et bien tu es récompensé bi-idhnillahi azzawajal à chaque fois. Donc, et après le shir, il a tiré l'attention sur un point. Il dit, quand tu médites à ce khair, tu dis que c'est un khair azim. Taïeb, qu'en est-il du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ? Sachant que toute forme de khair que sa umma a accompli depuis le début de la umma jusqu'à Yom al-Qiyamah, le ajr revient au prophète sallam car il est le premier à avoir transmis ça à sa umma. Il est celui qui nous l'a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le ajr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de ajr nous, mais la même récompense revient également au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous avoir enseigné cela. Donc c'est une grande incitation pour nous d'enseigner le khair à nos enfants. Et donc quand tu rentres chez toi, après ce cours matin, après cette dawa, et que tu as appris des adhkars, tu rentres chez toi, tu demandes aux gens de ta famille, les gens que tu retrouves chez toi, et dis-leur, on a appris des adhkars liés au sommeil, etc. Est-ce que tu les connais? Et s'ils ne connaissent pas, tu leur enseignes.
أيضا من حديث أو من أذكار النوم آدابه ما جاء في الحديث الخامس في الباب قال وعن يعيش ابن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال قال أبي بينما أنا مضجع في المسجد على بطني إذ رجل يحركني برجله فقال إن هذه ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الحديث فيه بيان حالة من حالات النوم، حال استلقاء، نوع من الاستلقاء على الأرض على حال النوم، وهذه الحالة من الاستلقاء منهي عنها. يبين الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، وهي الضجاعة، لأن الضجاعة قد تكون على الجنب الأيمن أو الأيسر أو الخلف أو على بطني. اللي على البطن هذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي يقول أن أباه اللي هو طخفة الغفاري الراوي يعيش عن أبيه طخفة، فطخفة يقول قل قال طخفة بينما أنا مضجع في المسجد على بطني، يعني نايم على بطنه، إذا رجل يحركني بقدمي، دف بالقدم حركه لأنه نايم برجله، فقال لما انتبه له قال إن هذه ضجعة يبغضها الله سبحانه، الله تعالى يبغض من أفعالنا، يبغض وأنه يفرح وأنه أيضا يضحك ويرضى ويسخط، كل هذه أفعال الله تعالى نؤمن بها ونقرها لأن جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ونمرها بمعناها في لغة العرب، ولا نسأل عن كيفها ولها كيف، ولا نحرفها ولا نمثلها بما عليه البشر. قال هذه ضجعة يبغضها الله، يعني لا تفعلها، هذا نهي، ولا تفعلها، لا تنام على بطنك. قال فنظرت إذا هو رسول الله معلم البشرية عليه الصلاة والسلام يعلم هذا صعاد رسول عليه الصلاة، رؤوف بالمؤمنين يحب لهم الخير كل شيء، ويوحى إليه أن هذا الضيعة وهذا النوم ليست مما يحب اللي يبغضها الله تعالى، فنبه هذا الصحابي. إذن المسلم ماذا عليه الآن؟ أن يتقي هذه الضيعة قدر ما استطاع، يتقيها لأن الله يبغضها، ولا ينبغي أن تفعل شيء يبغضه الله تعالى إذا علمت. لكن نقول قد يحتاج الإنسان لهذه من باب اضطرار، قد يكون إنسان مريض توجع ومن شدة وجعه يريد أن يتكي على هذا ويضجع على بطنه، أو أنه جرت له عملية في ظهره ويضجع على بطنك والعملية في ظهره ما يستطيع ينام على ظهره، هذه لا حرج، الأمور إذا ضاقت تتسع، هذه ضرورات والضرورات لأحكام، لكن الأصل أنك لا تفعل هذا. وإذا رأيت زوجتك أو ابنك أو أخوك يفعل ولا تفعل هذا، هذا ضجعة يبغضها الله تعالى، فهذه فائدة عظيمة يعلمها رسول الله بهذا الحديث في باب النوم. نعم.
الشيخ حفظه الله ورعاه لابد أن نطرح حديث rapporté par le prophète صلى الله عليه وسلم qui explique un des adabs à ne pas avoir lors du sommeil. On a vu jusqu'à présent les adab à avoir pour celui qui s'apprête à s'endormir. Et on va voir maintenant une position qui n'est pas appropriée, que le musulman ait, une posture qui est inappropriée, qui est le fait de dormir en étant allongé sur le ventre. Il est rapporté que Ya'ish ibn Tirfa, al-Rifari radhiyallahu anhuma, il rapporte que son père lui a dit, lorsque j'étais allongé sur le ventre, il était allongé sur le ventre dans la mosquée, et il ressentit que quelqu'un le touchait avec son pied, c'est-à-dire que quelqu'un le secouait avec son pied, comme pour le réveiller et lui parler, et s'adresser à lui. Et après, il entendit que cette personne, c'est-à-dire cet individu qui est venu, le secouait avec son pied, alors qu'il était allongé sur le ventre, lui informa que cette position, c'est-à-dire le fait d'être allongé sur son ventre, était une position qui provoquait la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car parmi les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère, il rit subhanahu wa ta'ala, il agresse subhanahu wa ta'ala, il se courrouse subhanahu wa ta'ala, il se met en colère subhanahu wa ta'ala. Ceci fait partie des actes d'Allah azzawajal, et on les prend selon l'aspect apparent de la langue arabe, celle qui est écrite chez les arabes, et nous ne cherchons pas à interpréter, ni à déformer, ni à chercher le comment des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous affirmons ce qui est venu dans la révélation d'Allah par rapport à sa propre personne, sans chercher à déformer et interpréter les textes selon nos opinions. On les accepte tels qu'ils sont venus dans le sens apparent de la langue arabe. Et il rapporte que donc concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été mentionné dans le Coran al-Karim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est miséricordieux, il est plein de compassion vis-à-vis des autres croyants, des croyants de sa communauté sallallahu alayhi wa sallam. Et cet enseignement, le fait qu'il enseigne cette chose là à ce sahabi, c'est une révélation venant d'Allah. Donc Allah azzawajal a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam que le fait de dormir sur le ventre est une position qui provoque la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, évite cette position, car cette position, on a su de la révélation d'Allah azzawajal que ceci suscite sa colère. Donc il est bon de la délaisser. Ceci dit, le cheikh hafidhahullah wa il informe le fait que la charia prend en compte des aspects, c'est-à-dire les aspects liés à ce qu'on appelle les nécessités. Les nécessités ont des jugements qui leur sont particuliers. C'est-à-dire, par exemple, il se peut que la personne soit atteinte d'une maladie qui fait qu'il ait besoin de dormir sur le ventre. C'est une nécessité pour lui par rapport à une maladie qu'il a au niveau du corps. Dans ce fait, il a besoin de dormir sur son ventre. Lui est excusé. Ou le cas d'une personne qui aurait subi une opération dorsale, une opération chirurgicale dorsale par exemple, qui est liée à son dos, et il ne peut donc, après cette opération, ne peut pas dormir sur son dos. Il est donc dans la nécessité de dormir sur son ventre. Sur lui, il n'y a aucun problème. Il n'est pas empêché, il n'y a rien sur lui. Parce que c'est la nécessité. À Darura, il y a des jugements qui sont spécifiques à ces cas-là. Mais que celui qui est en pleine santé, qui n'a pas d'excuses et qui n'a juste, il veut dormir sur son ventre, lui, on lui dit, il faut que tu évites cela, car ceci provoque la colère de ton Seigneur. Et donc, quand tu rentres chez toi, enseigne ça à tes enfants, enseigne ça à ta femme, à tes enfants, à ta famille, afin qu'ils ne commettent pas un geste, une posture qui suscite la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala.